des médias.
Salut, ici Ziad Malouf de l'Atelier des médias. La semaine dernière, l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, l'AFP, l'Agence France Presse, Le Monde et France Média Monde, FMM, ont organisé une journée de réflexion sur les jeunes et les médias intitulée « Médias d'information, où sont les jeunes ?». Le journaliste et blogueur Nicolas Becquet propose sur son site mediatip.be un compte-rendu de cette conférence, son titre « L'info et les jeunes, le grand malentendu ». S'il fallait résumer le billet de Nicolas, on pourrait dire que les médias traditionnels s'inquiètent de l'effritement de leurs audiences. Ils se demandent comment séduire les adultes de demain et ils constatent que les réalités de la consommation média des plus jeunes sont à des années-lumière de ce qu'ils imaginent. Depuis le mois de janvier, l'Atelier des médias a choisi de vous initier à la manière dont les adolescents conçoivent et consomment les médias aujourd'hui. Nous vous avons proposé une série intitulée « Bienvenue en adosphère ». Si le monde d'aujourd'hui et de demain vous intéresse, n'hésitez pas à aller écouter les trois volets de cette série. Cette semaine, nous faisons un nouveau pas de côté en nous interrogeant sur la manière dont les médias dits traditionnels attirent ou tentent d'attirer les adolescents. Des organes spécialisés comme la radio Ado FM, le magazine Phosphore ou la revue Topo, portée par l'équipe de la revue Dessinée. Cette édition de l'Atelier des médias, comme les trois épisodes de notre série Bienvenue en Adosphère, a été coproduite par les élèves de la session magazine radio de l'IPJ à Paris. Depuis un mois, vous avez pu entendre des reportages et des entretiens réalisés par les étudiants. Aujourd'hui encore, vous allez écouter le travail d'apprenti journaliste et je suis d'ailleurs avec l'un d'entre eux. Salut Antoine Geoffin.
Salut Ziad.
Tu as tenté de dresser un portrait robot de l'adolescent de 2015 et de sa consommation média.
En effet, on pourrait imaginer que la télé et la radio n'ont plus du tout la cote et que ces médias traditionnels sont en perte de vitesse, mais ce n'est pas aussi simple. Commençons par la radio, selon Médiamétrie. 85% des 13-19 ans l'écoutent chaque jour. 1h44 en moyenne, c'est une heure de moins que le reste des Français. Deux tiers des ados se branchent sur les radios musicales, Skyrock, Fun Radio, Virgin, Energy et Ado FM en tête. Les 13-19 ans les écoutent pour la musique, mais aussi les jeux, les canulars et la libre antenne. C'est pendant cette tranche que des auditeurs de leur âge décrochent leur téléphone pour parler de problèmes qui peuvent les concerner. Les ados n'en oublient pas pour autant de rester à l'écoute des informations. Pour la plupart, ils s'informent en suivant les flash infos de leurs émissions préférées.
Et comment est-ce qu'ils écoutent la radio ?
Eh bien, contrairement aux adultes qui l'écoutent beaucoup en se déplaçant, l'endroit préféré des ados pour se brancher sur la radio, c'est d'abord leur chambre. Et oui, sur leur chaîne stéréo, bien sûr, mais aussi leur ordinateur et leur smartphone. Et puis, les ados aiment bien podcaster. Ils enregistrent et téléchargent leurs émissions préférées sur leur téléphone ou leur ordinateur pour les écouter plus tard. Un tiers des ados écoutent donc la radio via ce qu'on appelle les podcasts. Les 13-19 ans sont assez multitâches. Un ado sur trois avoue écouter sa radio en même temps qu'il surfe sur Internet.
Autre média traditionnel dont les ados se servent toujours, la télévision.
Oui, même s'ils y passent de moins en moins de temps, la télé est devenue le deuxième média le plus utilisé dans la journée par les ados, derrière leur téléphone portable. En 2008, c'était l'inverse, la télé était en tête. Ils continuent quand même de la regarder, mais moitié moins longtemps que la moyenne nationale, 1h30 par jour contre 3h45. Mais attention ici, on n'inclut pas le visionnage de la télé en direct et replay sur internet, tablette et smartphone. Les ados s'assoient donc de moins en moins devant l'écran de télévision familiale. Quand ils le font, c'est surtout le soir entre 20h et 20h45, le plus souvent quand ils sont à table en famille.
Et qu'est-ce qu'on peut dire de la presse écrite ?
Eh bien, ils ne la disent pas vraiment. 44% des 15-24 ans n'ouvrent pas un journal. Entre 2008 et 2013, le temps que consacrent les ados chaque jour à la lecture d'un journal papier a considérablement baissé. 6% de leur temps en 2008. En 2013, cette part est tombée à 4%. Ce que recherche cette tranche d'âge, c'est avant tout une info personnalisée qui corresponde à leurs attentes. C'est pour cela qu'ils préfèrent en grande partie lire les actualités via leur page Facebook ou leur fil Twitter. Ils s'abonnent directement aux personnalités, aux sites qui les intéressent. Ils n'ont plus ensuite à faire le tri.
Merci Antoine, merci aussi à tous tes camarades de l'IPJ. Vous l'avez entendu dans la chronique d'Antoine à l'instant, plusieurs radios en France courtisent l'audience adolescente avec des matinales et des libres antennes. L'une d'entre elles porte même sa cible principale dans son nom. Il s'agit d'Ado FM, une radio qui diffuse en région parisienne et à Toulouse. Elle a enregistré en 2015 un peu plus d'un million d'auditeurs quotidiens selon Médiamétrie. Mélissa Barra a rencontré les équipes d'Ado FM.
RFM.
I. Et bien sûr que ouais, tout va bien. Vous commencez la journée avec nous ce matin sur Ado Mix Dance Pop R&B, 8h17 dans quelques instants. Comme promis, Félix Yen pour la suite du son. On va se faire le Ain't Nobody. Et puis sans s'intéresser maintenant, si vous le voulez bien, la météo du jour.
There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely.
Alors bonjour, moi je suis Léo, je suis en charge de l'animation de la matinale sur Ado entre 5h30 et 9h. Et tous les matins on a rendez-vous avec les auditeurs. Je suis pas tout seul, je suis accompagné d'Armel qui s'occupe de la partie journalistique. Bonjour Armel.
Bonjour, bonjour Léo.
C'est pas comme si on se voyait pas souvent en plus hein. On est également tous les matins avec Sandra. Sandra qui est un petit peu la tête pensante de l'équipe.
Voilà.
Voilà. La partie mûre, voilà, la partie réfléchie de cette émission. C'est
day to day, I'm blind to see and find how far to go.
C'est quoi Ado FM? Ado, c'est une radio qui s'adresse évidemment aux jeunes. Mais Ado, ouais, au tout début, au tout commencement, c'était une radio qui s'adressait exclusivement aux ados avec un son très, très urbain, très rue, voilà. Et on évolue avec notre temps aussi, hein. Donc on mélange un petit peu la dance, la pop et le R&B. Donc on est ouvert sur une plus grosse aujourd'hui programmation musicale, ce qui fait qu'on a des auditeurs qui ont tout autant 16 ans que 25 ans, maximum 30 ans, voilà. Donc on est une radio jeune, en tout cas, ça c'est sûr.
Oui, parce que à l'origine c'était une radio associative où en fait le but c'était de faire participer les ados aux émissions. En gros, une radio d'ados faite par des ados. Mais ça c'était quand c'était une radio associative. Après, depuis, c'est
devenu, on a grandi bien heureusement.
Depuis, c'est devenu une vraie radio entre guillemets avec du vrai son et des adultes qui font de la radio.
Bah justement, on va parler de cette matinale. Comment ça fonctionne?
Alors en fait on a un conducteur très précis parce que ça peut paraître un peu anarchique et futile quand on écoute notre matinale, mais c'est en fait quelque chose de très construit. On a un conducteur avec des heures très précises, donc on sait que entre 6h et 6h30 on a telle rubrique à faire. On sait que par exemple on a donc le champion de Léo qui est un peu la loose quotidienne de quelqu'un. On a la rubrique d'Armel qui s'appelle l'info à partager, qui est une info dont on sait que dans les bahuts à la machine à café, on va en reparler le lendemain en disant écoute ce que j'ai entendu sur Ado, c'était marrant, voilà. On a des canulars, on a voilà, mais c'est en tout cas très organisé. On a une horloge qui est la même à chaque heure tous les jours entre 5h30 et 9h.
Dans moins d'une minute, retour du Morning Ado.
Armel, donc toi aussi tu fais certains reportages, tu fais aussi des micro-trottoirs. Et donc du coup, comment ça se passe globalement ton travail?
Bah en fait, moi je suis aussi journaliste, je suis pas que animatrice, je suis co-animatrice donc avec donc Léo l'animateur principal et Sandra. Et après à côté de ça, donc je suis journaliste. Et donc du coup, je fais les flashs toutes les demi-heures, hein, donc ça commence à 6h jusqu'à 9h toutes les demi-heures.
Après, à quoi correspond l'actualité pour les adolescents?
Bah moi je vais pas trop parler de politique, vraiment ça va être une brève maximum par flash parce que la politique, on le sait, ça intéresse pas trop les jeunes. Ou alors je vais vraiment parler des résultats, les gros résultats des grosses élections ou vraiment ce qui va impacter la vie des jeunes. Donc par exemple maintenant on va peut-être avoir le droit à se prendre un coton-tige dans la bouche pour savoir si on a fumé du cannabis dans la semaine, et ça on va avoir le droit à ça au lycée. Je vais vraiment choisir, si je dois choisir de la politique, ça va être comme ça. Après il y a l'infotrafic et puis après il y a donc l'info à partager pour mon cas, hein. Donc moi je fais l'info à partager en gros à 6h50 et 8h50 dans la grille, et là donc c'est comme disait Sandra, une petite news que je trouve en fait généralement sur internet, un petit buzz du moment ou quoi, on en parle, on débriefe ensemble, et en gros c'est pour qu'après les gens le partagent entre eux. C'est vraiment l'info à partager, le travail de journaliste, c'est-à-dire que je fais des interviews, je pars en reportage et je fais des micro-trottoirs que je monte pour le lendemain matin, pour le morning.
Et quand tu fais des micro-trottoirs, tu vises surtout des ados, des jeunes?
Exactement. Donc je vais généralement pour les micro-trottoirs, c'est plus facile de les trouver à la sortie du lycée ou devant la fac. Je me mets devant la fac et puis voilà, je les interpelle et puis voilà, généralement quand ils voient ados, il y a pas de souci, j'ai pas mal de réponses. Et puis après donc il y a d'autres rubriques, il y a donc Léo derrière qui fait ces trucs, je vais le laisser l'expliquer.
Ouais, il y a une rubrique dont je suis particulièrement fan. Un truc qu'on a pensé tous les trois ensemble, c'est la minute vénère. Vénère de énerver en verlan. Hein. Et l'objectif, en fait, est d'énerver quelqu'un au bout du fil en moins de 60 secondes. Faut que cette personne s'énerve et ça nous fait forcément tous rigoler. Il y a cette rubrique qui revient effectivement une fois par heure. Il y a une autre aussi qui me donne aussi beaucoup de fou rire, c'est le secret. Tous les matins, on a une personne au bout du fil qui va taire son identité. C'est un petit peu le principe, mais qui va par contre, à côté de ça, nous raconter une grosse loose qui lui est arrivée.
Une grosse loose, un moment de honte.
Exactement, une VDM, voilà, une vie de merde. voilà, un petit moment gênant. À côté de ça, on ne juge jamais, on rigole. On peut conseiller quand c'est possible et quand ça arrive. Et c'est pareil, c'est une rubrique qui revient toutes les heures et qui nous fait beaucoup rigoler aussi.
Ça veut dire qu'il y a une grande partie de participation des auditeurs dans votre antenne.
Ouais, bien sûr, c'est essentiel. Hein. C'est hyper important que les gens apportent leur touche. Donc ouais, c'est hyper important. Et je pense que les gens, en plus, aiment bien entendre un peu ce qui se passe dans la vie des autres. Nous, on raconte beaucoup nos vies, mais du coup, on raconte aussi beaucoup celles des auditeurs.
Le son mystère.
Allez, les filles, on se faisait un petit Shaggy dans quelques instants pour le classique.
Oh yes!
Oh, c'était
lequel?
Pas moi. Et Wasabi.
Wasabi.
Bon. C'est pas moi. Ouais, effectivement. On est en ligne ce matin, si vous le voulez bien, avec Belinda. On est dans le 94 ce matin. Mon petit bébé d'amour, comment tu vas ce matin?
Oui, ça va et vous?
Ouais, ça va.
Salut Belinda.
Bon, plutôt bien dormi, Belinda?
Non, je suis un peu stressée en ce moment, mais bon, je vais pas raconter ma life, sinon on est encore là demain. Là.
respire. Si on peut t'aider, on est là. T'inquiète,
voilà.
Belinda.
À tout moment, nous, on te tend la main, il n'y a pas de problème. On laisse personne sur le bas-côté.
Tu sais, nous aussi, on a une vie de merde. Ça, je confirme.
Mais j'ai pas dit ça, moi. C'est juste qu'il y a des petites choses qui me stressent en ce moment. Voilà.
D'accord.
Allez, on espère que ça va le faire. Ça, normalement, ça va te déstresser direct. 2200 balles, c'est la cagnotte du son mystère à débloquer tout de suite.
Alors, tout à l'heure, on a entendu qu'il y avait une petite séquence où vous racontez vos propres expériences. Pourquoi ce choix?
Je pense que les gens qui nous écoutent, d'abord, ils ont effectivement envie. Moi, ils savent que je suis en loose sentimentale, qu'en ce moment, ça va pas, c'est le drame dans ma vie, etc. Ils savent qu'Armel a un petit copain qui s'appelle Mich et qui est militaire et de temps en temps, elle nous raconte des anecdotes sur ce qui se passe dans leur vie de couple. Ils savent que Léo est célibataire et que c'est un peu le lover un peu canard qui a toujours des histoires horribles de cœur brisé à nous raconter. Donc voilà, donc je pense que à nous trois, on représente à peu près tous les cas possibles et tous les personnages possibles dans lesquels on puisse se retrouver. Donc du coup, ils branchent la radio parce qu'ils ont envie de savoir ce qui s'est passé dans la vie de Léo hier, s'il a pris son Scénic 2 avec son drapeau du Portugal pour aller faire ses courses, si moi j'ai eu un rencard Tinder et que ça s'est bien passé, ou si Armel avec Michel s'est embrouillé. Enfin voilà, je pense que c'est une espèce de pas de sitcom, mais presque, en fait, où on veut, parce que c'est nos vraies vies, hein, pour le coup, on raconte vraiment nos vies, on raconte vraiment ce qui se passe dans nos vies. Donc je pense que les gens sont intéressés de savoir ce qui s'est passé dans nos vies la veille. Donc c'est aussi pour ça qu'ils se branchent pour nous écouter le matin.
Vous les connaissez bien, les jeunes?
Nous, on n'est pas forcément très jeunes, hein. Enfin, en tout cas, on a, bon, à part toi, Armel a 26 ans. Nous, on a tous les deux dépassé la trentaine, donc on est évidemment plus dans la cible des gens à qui on parle. Donc, on est évidemment tous les trois hyper connectés et hyper au courant de ce qui se passe pour les gens entre 15 et 25 ans, on va dire. On sait absolument tout. On sait qui marche, qui fait rire, qui fait le plus de vues sur YouTube, quelles sont les infos qui les intéressent, quels sont les sujets qui les intéressent. On est obligé d'être hyper connectés avec les gens de l'âge des gens qui nous écoutent. Et puis aussi, on a un Facebook ado qui fonctionne très très bien. On a plus de 500 000 ou 600 000...
600 000, on est presque à 700 000.
On est presque à 700 000 fans sur notre page ado. Donc c'est vraiment une super façon de pouvoir parler directement aux gens et d'avoir des réactions directes avec eux aussi. Donc nous, tous les gens qui nous écoutent, tous les matins, on leur poste quelque chose. J'ai eu un message cette nuit d'un rendez-vous Tinder que j'ai eu à Tinder, donc site de rencontre, que j'ai eu la semaine dernière, qui m'avait pas donné de nouvelles et qui m'en redonne d'un coup. Donc on a lancé le débat. Armel me disait il faut que tu y ailles, Léo me disait il faut pas que tu y ailles, et du coup on a posté la photo du message que m'a envoyé le garçon, et on demande aux auditeurs est-ce que oui ou non Sandra doit aller à ce rendez-vous, etc. Donc là, tout le monde donne son avis, donc c'est vraiment hyper réactif, et c'est pour ça qu'on est connecté aussi toute la journée là-dessus, c'est-à-dire que on peut avoir une réponse immédiate à la question qu'on leur pose, ou à une photo qu'on poste de Léo parce qu'il est mal coiffé aujourd'hui, ou à la photo du petit copain d'Armel parce que lui dit qu'il est pas roux et nous on dit qu'il est roux. Enfin voilà, et donc tout ça c'est des réponses immédiates vraiment, et ça c'est de la vraie interactivité qu'on n'avait pas avant tous les réseaux sociaux, et ça c'est vraiment hyper appréciable. Et d'ailleurs les gens sont hyper réactifs parce que même s'ils vont au boulot et qu'il est 6h, 7h, 8h du matin, on a quand même tout un tas de réponses, et ça c'est magique quoi.
Ah, mais
attends,
il y a 8 commentaires quand même.
Waouh. Il y en a déjà plus que sur nos photos, c'est de la bombe.
Alors Sandra, Ado FM, donc c'est une radio qui s'adresse globalement aux jeunes, aux adolescents. Comment est-ce qu'on parle aux adolescents?
Alors évidemment, on leur parle pas comme on parle nous tous les jours. On a un langage qui est propre aux adolescents, c'est-à-dire que on fait extrêmement attention aussi, parce que nous, on a passé l'adolescence évidemment, à connaître bien les termes qu'ils emploient, de pas paraître ringard, de pas paraître un peu old school. Donc évidemment, on fait très très attention au langage qu'on a, et puis ça, on le trouve évidemment sur Internet, sur leur façon de parler, sur les tweets qu'ils envoient, sur les statuts Facebook qu'ils ont, etc. Donc voilà, encore une fois, ça fait partie aussi du boulot de savoir à qui on s'adresse et de savoir comment s'adresser à eux. Donc évidemment, on n'a pas le même langage qu'on emploie tous les jours, nous, dans la vraie vie.
Mais ça, c'est pour ce qui est du ton. En tant que média, qu'est-ce qui intéresse en fait les adolescents en termes de contenu?
Alors en termes de contenu, donc là c'est pareil, on leur parle d'histoire un peu, comment dire, un peu fantastique dans le sens...
insolite.
Voilà, insolite, voilà, c'était le mot que j'ai cherché. Donc on leur parle d'histoire insolite, évidemment. On leur parle pas mal de sexe, on leur parle pas mal de relations humaines, d'amour, évidemment. On leur parle de séries, on leur parle, voilà, tout ce qui fait qu'on est intéressé quand on est adolescent par ces sujets-là. On vit un peu dans ce monde-là. On regarde les mêmes séries, on écoute la même musique, parce que évidemment toute la journée sur ado, c'est la musique aussi pour adolescents. Donc voilà. Donc pour nous c'est plus compliqué. Ça peut l'être si on prend le train en marche. Nous, on a toujours fait ça, on s'est toujours adressé au même public, donc ça l'est plus en tout cas.
Donc en gros, la stratégie pour mieux parler aux adolescents, c'est un peu vivre comme des adolescents, c'est ça.
C'est exactement ça, voilà. Parce qu'on est tous adultes, on est célibataire, on vit un petit peu, franchement très sincèrement, on vit un petit peu comme des adolescents. Donc c'est moins compliqué pour nous de les comprendre, ça c'est sûr et certain. Est-ce que c'est une stratégie? Je suis pas sûre. Est-ce que tout le monde fait ça? J'en suis pas sûre non plus. Mais en tout cas, oui, nous, clairement, on vit comme des adolescents. Ça, c'est sûr.
Et vous êtes sur quels réseaux sociaux?
Tous.
C'est-à-dire?
Tous.
Facebook, Twitter, Insta, Snapchat.
Les sites de rencontres. Non, mais voilà. Vraiment, on est sur tout. Et on est surtout à la guette des nouveaux réseaux sociaux pour ne rien rater et pour ne pas... passer pour des ringards qui n'ont pas ça ou ça. C'est vrai qu'on est moins sur Snapchat, je pense que c'est une erreur d'ailleurs, mais... Ouais.
Non, mais on pousse la liste quand même super loin, parce que là, on a même testé les sites de rencontres, les réseaux sociaux de Disney, on a tout fait, quoi.
Ouais, on tente tout, on teste tout.
Est-ce que les auditeurs vous font des retours en vous disant, moi, ça me plaît qu'on parle comme à une copine, comme à un copain
Alors, on n'a pas ce genre de retour, genre, ça me plaît qu'on parle comme une copine ou comme un copain. En revanche, on a, par exemple, moi, pour mes histoires d'amour, j'ai des auditrices qui m'envoient des photos de leurs potes qui sont célibataire, j'ai des auditrices qui me disent tiens regarde je suis tombée sur ce nouveau site de rencontre, j'ai des auditrices qui me disent oui moi je suis comme toi, je comprends, bonne chance, etc. Ça me fait du bien de t'entendre le matin parce que je sais que je suis pas la seule dans ce cas là, etc. Donc ouais, vraiment ils vivent avec nous notre vie et ils nous aident de temps en temps quand on a besoin d'un coup de main, ou par exemple là il y a pas longtemps je cherchais un appart, donc j'ai plein d'auditeurs qui m'ont envoyé des annonces ou qui m'ont envoyé des contacts de gens qu'ils connaissaient dans des agences, etc. Donc ouais ils vivent vraiment avec nous et ils comprennent ce qu'on vit parce qu'ils ont les mêmes problèmes que nous aujourd'hui, quoi.
Et toi, ça te fait quoi, justement, d'avoir des retours et une interaction constante avec tes auditeurs sur ta vie privée?
C'est pour ça qu'on fait ça, en fait. C'est ça, c'est que d'abord, on se dit qu'on est écouté, ça, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, on se rend compte qu'ils ont les mêmes problèmes que nous, qu'on a les mêmes problèmes qu'eux, et que quand on reçoit un mail où on lit « Oui, ça m'a fait du bien d'entendre ça, voilà, je suis dans la même situation, ça m'a fait du bien de vous entendre », ou « En ce moment, c'est la loose, je vis mal un truc, et de pouvoir rire le matin, ça m'a fait du bien, vous me faites du bien », c'est voilà, c'est pour ça qu'on fait ce métier aussi, c'est parce que ça fait du bien d'entendre les gens réagir à ce qu'on dit et surtout se dire qu'on leur fait du bien le matin.
Est-ce que c'est de plus en plus difficile d'attirer les jeunes vers des médias comme la radio ou des médias qui sont un peu plus traditionnels que ce que eux consomment aujourd'hui ?
Je pense pas que ça soit plus difficile. Vraiment, honnêtement, les radios jeunes cartonnent, il y a aucun problème. Les ados écoutent la radio, ça y a aucun souci. Je pense que encore une fois, ce qui change, c'est la façon d'écouter la radio. C'est-à-dire que oui, de moins en moins de jeunes ont des radios chez eux physiquement. En revanche, ils écoutent sur Internet, ils écoutent sur les applis, ils écoutent sur leur télé aussi souvent. Nous, par exemple, on a une radio régionale. On a très souvent des auditeurs qui nous écoutent à Brest, enfin dans toutes les régions de France, alors qu'ils peuvent normalement physiquement pas nous écouter, mais grâce aux applis, grâce aux box aussi, ils nous écoutent souvent. Donc je pense que vraiment, il n'y a aucun souci pour attirer les jeunes sur le média radio si on sait leur parler et si on sait s'adresser à eux. Voilà.
Yeah.
Restez avec nous dans la deuxième partie de l'émission. Nous allons rencontrer les équipes de Phosphore, un magazine qui depuis plus de 30 ans s'adresse aux adolescents. Ses ventes ont chuté drastiquement depuis quelques années. Comment l'équipe de Phosphore s'adapte aux nouvelles réalités médias, c'est dans un instant.
http://atelier.rfi.fr.
L'hebdo sur Atelier des médias. Nous nous intéressons cette semaine aux médias qui visent les adolescents. Nous partons tout de suite à Montrouge, tout près de Paris, pour rencontrer l'équipe de Phosphore. Depuis près de 30 ans, ce mensuel est une référence en matière de presse jeunesse. Il s'adresse aux 14-18 ans en leur parlant orientation, lycée, jeux vidéo, culture, sexualité ou drogue. En perte de vitesse, le périodique est passé de 50 000 ventes à 40 000 en 3 ans. Pour réagir, son équipe a choisi d'investir à fond les réseaux sociaux. Martin Guess de l'IPJ est allé à la rédaction de Phosphore. Il a rencontré notamment David Groison, rédacteur en chef de Phosphore.
Et donc on a eu une première chute au début des années 2000 en se disant le tsunami numérique pour de la presse papier, de ne pas l'avoir bien saisi. On était dans une position un peu descendante d'un journal d'experts. Et ce que nous disaient les jeunes à l'époque aussi, c'était de dire Phosphore, c'est pour se poser, en se disant je suis tout le temps sur les écrans, et donc pour Phosphore c'est le quand il arrive chez moi, j'éteins tout, j'éteins le téléphone, j'éteins l'ordi, je me pose dans mon canapé, je me pose dans le lit, etc. Et je lis tranquille pendant une heure. Sauf que maintenant la sursollicitation est telle que c'est compliqué d'avoir quelque chose uniquement sur le papier pour le recrutement en fond. C'est-à-dire que les jeunes, ils mettent plus les pieds dans les maisons de la presse, mais leurs parents aussi, ils mettent moins les pieds. L'abonnement qui se faisait en envoyant des mailings dans les boîtes aux lettres, mais les gens ouvrent plus leurs boîtes aux lettres, ouvrent plus les enveloppes, parce que c'est que des factures et des sollicitations publicitaires. Donc nous, il faut qu'on construise au fond ce deuxième pilier, cette offre numérique, pour soutenir aussi l'offre papier. Nous, au fond, on se dit qu'un sujet, il est réussi dans Phosphore quand ça devient un sujet au dîner. Quand d'un coup, le jeune, il dit « Ah tiens, t'as vu ce que j'ai lu sur les élections ? Il y avait un sujet pas mal fait sur le cannabis dans Phosphore. » Et d'un coup, ça devient enfin un sujet et qu'on parle pas uniquement des notes de maths du premier, deuxième trimestre. Et trouver cet autre modèle sur le numérique, c'est compliqué.
Pour revenir sur votre présence sur les réseaux sociaux, pour l'instant, vous avez à peu près 15 000 j'aime sur votre page Facebook et un peu plus de 2500 followers. Donc c'est pas mal, mais ça reste encore un peu confidentiel. Est-ce que c'est difficile de mobiliser les ados autour de la presse jeunesse sur les réseaux sociaux ?
15 000, moi, ça me va très bien parce que ça permet d'avoir une communauté avec laquelle interagir, de pouvoir échanger, d'avoir des retours, etc. On n'en fait pas un outil de propagande et on est content quand d'un coup, effectivement, Norman se prend en photo avec le magazine ou Natou, etc. parce que ça fait de la pub aussi, mais c'est pas ce qu'on cherche, nous.
Parce que finalement, c'est pas en train de changer les règles du jeu et que c'est pas avec cette présence sur les réseaux sociaux que vous allez directement toucher le jeune qui sera peut-être demandeur après auprès de ses parents.
On a un moment de bascule, vous avez raison. Donc on explore toutes les pistes sans non plus enclencher une machine de guerre commerciale ou marketing. C'est-à-dire, comme je vous le disais, on a pas de community manager, c'est la dizaine de journalistes de la rédaction qui s'en occupent. On teste des choses, on a fait une conf de rédac en ligne vidéo, comme ça on a fait 2-3 rendez-vous pour voir ce qui s'y passait.
Mais avec des ados ou entre vous?
Avec des ados, de l'autre côté de l'écran, avec nous, et puis il y avait 70 ados qui nous ont posé des questions, qui ont suivi, qui ont proposé des sujets, etc. Donc on teste des choses, quand on les voit arriver sur Snapchat, par exemple, on fait pas grand chose sur Snapchat, on teste pour l'instant, au fond, essayer de comprendre nous aussi ce langage, qu'est-ce qui s'y passe, etc. Et puis peut-être qu'on aura une idée géniale qui nous permet de résoudre cette quadrature du cercle et tout, mais bon, pour l'instant, on tâtonne un peu.
Et vous postez quoi sur Snapchat, par exemple?
Alors là, on a fait au Transmusical de Rennes, du coup des concerts report, des petites interviews, etc. avec les ados qui étaient reporters, avec Apolline, notre journaliste, qui était sur place pendant 3 jours. On a fait ce travail-là. On regarde comment ça réagit, ce qui s'y passe, ce qui s'y dit, pour voir comment on fait évoluer le truc. Il y a 10 ans, quand je suis arrivé à Phosphore, je voulais faire une rubrique sur les ados qui se bougent, qui font des choses, etc. C'était impossible à faire. C'est-à-dire, il fallait que j'appelle la Croix-Rouge ou des grosses ONG, comme ça. Je disais, est-ce que vous avez des ados chez vous? Ils disaient, ah bah, je vais regarder. Eux-mêmes, aller voir leurs trucs régionaux, leurs antennes régionales. Et puis finalement, 3 mois après, elle me disait, ah bah j'en ai un de 20 ans. Et je disais, bah non, moi je veux un 14-18 ans. Aujourd'hui, on a des propositions tous les jours via les réseaux sociaux, de jeunes qui montent leur groupe, qui montent leur boîte, qui sont engagés dans un projet humanitaire, qui font un séjour, une année de lycée à l'étranger, qui veulent nous raconter, qui partent avec les scouts au Japon, qui veulent nous faire des photos, etc. Donc pour nous, c'est une force, c'est-à-dire que ça nous permet d'être en contact permanent avec eux. Au lieu d'avoir un rendez-vous tous les mois, on peut avoir ce dialogue-là sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Donc pour nous, on a une richesse de projets, une proximité avec le lecteur qui est beaucoup plus forte. On donne des choses qui sont plus de l'ordre du lien. Ça nous permet aussi d'être le soir des attentats tout de suite dans notre posture un peu d'ami du grand frère. C'est comme ça qu'on se définirait dans notre posture d'émetteur, d'éditeur. De pouvoir être en réconfort, de pouvoir donner des explications, de pouvoir repiocher dans nos archives pour donner des éléments d'explication sur que veut l'État islamique, qui combat en Syrie, assez vite comment s'informer sur les réseaux sociaux parce qu'on voyait passer des photos, des manipulations, etc. Donc ça nous permet d'avoir deux rythmes.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr.
Une légère envie de violence quand elle relâche ses bas. Je ne suis plus à Vandruna, je ne suis plus comme ça. Des rumeurs adolescentes disent que je ne suis pas à toi et je pense qu'une part de vrai se cache. Dis-moi si je dois partir ou pas. Toi, Una, quand tu ne m'appartiens pas.
Moi, je travaille à la rédaction de Phosphore depuis 5 ans. J'ai fait ma dernière année d'études en alternance. Et après, j'ai été pigiste pendant 4 ans et là, je suis en CDD. Je m'occupe de la rubrique musique. Ça, c'est tous les mois. Et sinon, après, j'interviens un peu dans toutes les pages. Que ce soit société, que ce soit actu aussi un peu, et aussi tous les sujets que nous on appelle intimes, qui traitent les questions que se posent en fait.
Phosphore, c'est quand même un des titres de référence de la presse jeunesse depuis un peu plus de 30 ans. Comment est-ce qu'aujourd'hui, en 2015, on s'adresse aux adolescents ?
On s'adresse à des adolescents en s'efforçant toujours de se demander comment eux se posent les questions, parce que c'est jamais comme nous, on se les formule exactement. Donc ça veut dire que c'est hyper important pour nous d'avoir des stagiaires qui sont nos lecteurs qui viennent, d'aller aussi les rencontrer dans les lycées, d'aller parfois aussi créer des événements. Comme là, j'étais au Transmusical et j'étais pas que moi en tant que journaliste musique, j'étais avec trois lecteurs qui étaient aussi reporters, donc ils avaient des passes journalistes. Ils pouvaient donc aller dans les coulisses, on a fait des interviews, et puis c'est aussi l'occasion d'avoir des conversations avec eux sur plein d'autres sujets et de voir un peu ce qui les préoccupe et les questions qu'ils se posent et surtout comment ils se les posent pour pouvoir nous y répondre à la bonne hauteur sans les prendre de haut en analysant les jeunes, ce que font parfois beaucoup de médias pour adultes, sans non plus être trop infantilisant parce que du coup ils nous liront pas. Donc c'est vraiment un dosage.
Et aujourd'hui, on voit quand même que, enfin, ils passent beaucoup de temps, que ce soit sur Twitter, encore un peu sur Facebook, sur Snapchat, sur Instagram. Enfin, ils ont une multitude de réseaux sociaux où ils peuvent s'exprimer. Enfin, comment est-ce qu'on arrive à exister quand on a un magazine de presse jeunesse et à montrer qu'on a une plus-value?
Bah, ça veut dire qu'il faut aussi qu'on soit là. Là, c'est vrai que j'ai vu qu'ils étaient tous sur Snapchat, beaucoup plus même que sur Facebook où leurs parents sont arrivés. Ça veut dire que nous, il faut qu'on soit là aussi. Donc on vient d'ouvrir un compte Snapchat, on a Instagram, on a Facebook, on a Twitter. Maintenant, évidemment, on raconte pas la même chose en 140 signes qu'en 5000 signes ou 14 000 signes d'enquête. Donc ça veut dire que on peut dire voilà ce qui se passe dans notre magazine sur ces réseaux-là, commencer la conversation ici et montrer que dans le magazine, ce sera des informations différentes parce qu'elles seront sourcées, elles seront triées, elles seront fiables. Et on se rend compte aussi, pour m'occuper aussi de la partie du courrier des lecteurs, et notamment après là les événements qu'on a connus, qu'il y a un besoin de s'informer sans s'angoisser. Et ça veut dire que il va falloir se tourner vers quelque chose de fiable, où on prend le temps de choisir les photos avec des vrais photographes, où on prend le temps d'enquêter, de mettre des mots sur ce qui s'est passé, de faire le tri aussi entre toutes les rumeurs qui ont circulé sur ces mêmes réseaux sociaux et qu'ils ont vu passer, donc de aussi revenir là-dessus.
Donc d'être un repère fiable dans l'océan d'infos dans le câlinage, quoi.
Voilà, ça veut dire qu'on se coupe pas de eux et de leurs réseaux sociaux parce qu'on y est aussi sur l'immédiateté, mais après dans le magazine c'est tous les mois et on se dit l'idéal c'est quand ils sont posés sous leur couette le soir et que c'est un moment où tout est un peu débranché. Et que là, on parle avec du temps, avec du recul, et on espère que du coup, ils disent « Bon, là, au moins, j'y vois un petit peu plus clair. »
Quelle place il reste finalement pour la lecture et pour le papier dans leur vie, où ils sont constamment sollicités par des écrans ?
Bah, je pense que ça dépend beaucoup de chacun. Par exemple, on a Tadzio qui est en stage avec nous. Et lui, il est inscrit sur aucun réseau social. Donc déjà, je pense qu'il y a aussi beaucoup de jeunes qui correspondent pas forcément à ce cliché de l'ado hyper connecté. Maintenant, moi, je crois qu'il y aura toujours de la place pour ce magazine si on reste dans notre rôle de magazine, où c'est aussi reposant d'un coup de pas être noyé dans un flux d'informations, d'avoir des images qui sont des belles images, des vraies photos, en tout cas, qui n'ont pas été prises à l'arrache avec un téléphone, même si là aussi la qualité augmente, et d'avoir un magazine qui est un vrai objet sur lequel on peut revenir et sur lequel on peut vraiment se poser quand tout nous inonde, et notamment là avec toute l'actualité, qui est aussi parfois assez anxiogène, quoi. Et notamment sur les réseaux sociaux qui sont à la fois merveilleux, qui à la fois parfois, on l'a vu, relaient des rumeurs et des fausses informations. Et c'est dur de démêler le vrai du faux quand on n'est pas à suivre l'actualité de tous les jours.
Je m'appelle Tadzio Moine, j'ai 14 ans, donc je suis en 3e. Et j'habite dans la banlieue parisienne, pas trop loin de La Défense. Et du coup, je suis en stage ici à Phosphore, à Bayard Presse, pour mon stage de 3e, qui a duré une semaine.
Toi, t'es lecteur, j'imagine, de Phosphore ?
Un petit peu, moins que d'autres magazines de Bayard, parce que j'ai été longtemps, quand j'étais petit, j'étais abonné à Wapiti, et mes sœurs étaient abonnées à Géoado, du coup j'en ai aussi lu, mais oui, Phosphore, je me suis mis à en lire un petit peu, il y a pas si longtemps que ça, mais un petit peu quand même, au CDI, à la bibliothèque, tout ça.
En même temps, t'étais un peu petit, et Phosphore s'adresse plus 14-18, donc t'es dans ta tranche d'âge là en ce moment.
Oui, voilà, ça s'adresse beaucoup aux personnes qui terminent le collège, qui rentrent au lycée, pendant toute la période du lycée, c'est pour eux. Du coup, c'est bien la tranche d'âge où je commence à lire ce magazine.
Ok, et qu'est-ce qui te plaît dans ce magazine ?
Oh, tout, surtout les rubriques qui expliquent un petit peu les différents travaux qui existent, qui nous font rentrer dans les coulisses des universités, des trucs comme ça, que ça peut servir à l'âge des gens qui lisent Phosphore, ça sert toujours pour un peu trouver sa voie.
Le côté orientation, en fait, t'intéresse.
Oui, et aussi le côté, les open source et les tests de différents objets, des jeux, des musiques, des objets qui peuvent intéresser les gens, ça aussi, je trouve ça intéressant.
Et toi, est-ce que par exemple, quand tu t'informes, est-ce que tu as un réflexe d'aller vers les réseaux sociaux ? Est-ce que par exemple, tu vas sur Facebook, sur Twitter ou sur Instagram, Snapchat ? Maintenant, on voit qu'il y a énormément de possibilités. Est-ce que toi, ça t'intéresse ? Est-ce que ça t'attire ?
En fait, non, pas vraiment les réseaux sociaux parce que je suis pas. Je suis inscrit nulle part dans aucun de ces réseaux sociaux, mais oui, quand je m'informe, la plupart du temps, je vais sur Internet, sur des différents sites qui peuvent donner des articles au jour le jour sur des choses qui se passent dans le monde, par-ci par-là. Ou oui, aussi dans les magazines, je m'informe aussi beaucoup dans les magazines. Parce que la télé, c'est pas vraiment que j'aime pas ça, mais c'est que la plupart du temps, quand j'essaye de m'informer à la télé, j'ai du mal à comprendre ce qui explique, vu que c'est très axé pour les personnes plus adultes.
T'es un peu l'anti-ado, toi, t'as pas de télé, t'es pas sur les réseaux sociaux. Est-ce que t'es un peu à part ou est-ce que vous êtes quand même beaucoup comme toi à pas trouver trop d'intérêt dans tout ce. Enfin, pas trouver ton compte dans tout ce système-là ?
Non, je sais pas si on est vraiment beaucoup, mais je pense surtout que j'ai pas vraiment une nécessité des réseaux sociaux, je peux très bien m'informer d'une autre manière. Du coup, franchement, je vois pas là. Tant que j'en ai pas besoin, je vois pas pourquoi je perdrais du temps à y aller. Pour ne rien faire, surtout.
Tu te limites aux SMS ou aux choses comme ça ?
Oui, les SMS, les mails, un réseau. Je sais pas trop si on peut appeler ça un réseau social, ça s'appelle Steam, mais c'est pas vraiment, c'est plus une plateforme de jeux vidéo où on peut parler en ligne avec les gens, mais c'est pas vraiment un réseau social comme Facebook ou Snapchat ou des trucs comme ça.
Mais oui, pour garder le contact avec mes amis, c'est surtout Steam, puis surtout les SMS, les mails et tout ça.
Ce que nous décrivent les jeunes, c'est effectivement que Phosphore, ça leur offre un moment de pause, un moment où ils peuvent arrêter d'être sursollicités par les réseaux sociaux et par les écrans, par les jeux vidéo. Et en même temps, c'est marrant parce que très souvent, ils partagent aussi sur Twitter et Instagram. Ils prennent en photo le magazine. Ils prennent un extrait, une interview de Squeezie, un jeune qu'ils reconnaissent dans le magazine, une citation qui leur plaît dans la page plus intime, une info, une blague qu'on fait dans le coin des experts, etc. Et ils renumérisent au fond du papier pour pouvoir le partager.
On parlait de l'accès à l'info, enfin, ou comme il y avait peu de médias d'information qui s'adressent à eux, parce que finalement, ils ont peut-être plus tendance à aller s'informer directement sur Twitter ou directement sur des réseaux sociaux qui sont bien plus viraux et qui sont plus faciles d'accès pour eux.
Oui, ça c'est vrai, mais en même temps, je pense qu'ils ont conscience, en tout cas quand ils ouvrent Phosphore, de se dire qu'il leur manque un peu des bases, des clés. Ça c'est très utile parce qu'au fond, sur les réseaux, eh ben il y a un peu tout et n'importe quoi. Donc il y a des choses super bien, il y a des trucs extrêmement brillants. Il y a le travail des décodeurs du monde là, qui par exemple, qui est remarquable pour les aider à faire le tri et tout. Mais si t'as raté le début, tu sais pas qui sont les Kurdes, bah, y a un truc que tu comprends pas sur ce qui se passe en Syrie. Si tu sais pas qui est l'histoire le Front National, etc., il y a un truc que tu comprends pas dans les élections. Et donc voilà, nous, notre nécessité, c'est d'amener les essentiels.
Plus sur la partie making of, on voit que vos journalistes, ils publient donc beaucoup sur les réseaux sociaux pendant leurs reportages. Vous semblez apporter vraiment beaucoup d'importance à cette partie envers du décor. Pourquoi?
Alors ça nous semble hyper important, c'est-à-dire on a au fond deux missions sur l'actualité, c'est le reportage décryptage, c'est-à-dire donner à voir, donner à comprendre, et aussi le deuxième pilier, c'est vraiment l'éducation aux médias. Donc on le fait dans le magazine en décodant une image, en interrogeant les mots, en interrogeant les chiffres, en donnant des clés pour se poser des questions par rapport aux médias tels qu'ils vont, mais c'est aussi ouvrir les portes et les fenêtres, nous, sur notre façon dont on fabrique le magazine. Parce que la défiance est telle par rapport aux journaux, à la télé, à la radio aujourd'hui, que voilà, ça nous semble, nous, de notre devoir d'armer aussi les jeunes, de casser le mythe de les médias comme un seul mot, mais de montrer que justement, bah, par exemple, quand il y a les attentats du 13 novembre, moi je leur dis souvent, c'est bah, repérer comment travaillent les différents titres et voir lequel vous semble le plus pertinent. C'est-à-dire, ça sert à rien de dire ah c'est tous des pourris, ils ont mal travaillé parce que sur BFM il y a eu la photo de la jeune fille dont on pensait kamikaze, en fait c'était une photo d'une jeune marocaine nue dans sa baignoire. Il y avait une jeune fille, voilà, qui me disait ouais, vous voyez, les médias, vous nous mentez, etc. Je dis bah non, repère le chemin de cette image, qui te l'a montré, qui te l'a pas montré, quels médias te disent ce qu'on sait, ce qu'on sait pas, etc. Et voilà, et choisis au fond qui t'as envie de suivre après.
D'accord, mais surtout, j'ai vu par exemple que vous lanciez soit des appels à témoins, ou enfin sur Facebook ou sur Twitter, vous dites tel jour on sera dans telle ville, et finalement ça crée du dialogue. Et est-ce que finalement ils ont envie d'être sur Phosphore, et peut-être qu'ils communiquent beaucoup sur Twitter. J'en ai vu une qui mettait vous êtes où, j'aimerais bien passer dedans.
Oui, ça c'est voilà. Alors ça, bah, c'était en faisant un making of à Valenciennes du micro trottoir. Effectivement, il y en a qui disent ah bah alors quand est-ce que vous venez nous voir ? Moi je suis à Strasbourg, moi je suis à Lyon, moi je suis à Saint-Étienne, etc. Donc effectivement, on peut faire ça. On a une autre rubrique qui s'appelle l'émotipote, où c'est l'idée, c'est de deux amis qui racontent leur histoire d'amitié, qui répondent aux mêmes questions. Comment tu t'es rencontré, comment t'es passé de pote à ami, ton meilleur souvenir, ton pire souvenir, etc. Comment vous voyez dans 10 ans. Et ça, le recrutement se fait via Instagram. On les invite à poster des photos d'eux avec ce hashtag émotipote. Et du coup, voilà, on en a une centaine en attente qui a envie de participer à la rubrique. Donc il y a aussi voilà de la matière sensible qui arrive par les réseaux.
L'avantage de la conversation, c'est que c'est peut-être eux finalement qui vont vous montrer ce qui marche ou ce qui marche pas sur Snapchat ou sur Instagram.
Exactement. L'idée, alors nous, on assume complètement ça, c'est-à-dire que on co-construit. On sait qui on est, qu'on est des adultes, on n'est pas des parents, on n'est pas des profs. On se dit plutôt voilà qu'on est des amis du grand frère ou de la grande sœur. Et on cherche pas à jouer aux jeunes, donc on assume ce qu'on sait pas. Et en même temps, ils savent aussi qui on est, qu'on peut les aider à faire le tri, à y voir plus clair, à décrypter, et puis de leur offrir les possibilités qu'ils ont pas forcément. Donc il y a une possibilité aussi de s'évader, d'aller voir pour de vrai, etc. Grâce à nous.
L'atelier des médias.
Dernière étape de cette exploration des médias traditionnels qui ciblent les adolescents, il s'agit maintenant d'une revue, ou plus précisément d'un projet de revue porté par l'équipe de la Revue Dessinée. Le nom de cette publication qui devrait voir le jour à l'automne 2016 est Topo. Mélissa Barra est allée rencontrer Laurence Froder, rédactrice en chef de Topo. Le 15 janvier dernier, l'équipe de Topo a lancé une campagne de crowdfunding, de financement participatif pour ses premiers numéros. Une campagne d'ailleurs dont l'objectif 15 000 euros a été atteint en moins de 2 semaines.
Alors, je suis Laurence Fredet, la rédactrice en chef de Topo, qui est le nouveau média que la Revue Dessinée lance en septembre 2016. La Revue Dessinée, c'est un trimestriel d'actualité en bande dessinée qui existe depuis 2 ans. Et le principe, c'est un slow média, ce sont des journalistes qui enquêtent sur différents sujets et on les associe après un dessinateur qui scénarise l'enquête. Alors, certaines personnes de la Revue Dessinée ont créé une autre société pour lancer Topo, qui va être un bimestriel qui va s'adresser aux adolescents.
Pourquoi un média spécifiquement adolescent ?
Bon, alors moi j'en ai à la maison, dont un qui lit très peu, qui ne lit que de la BD. Et en fait, à la Revue Dessinée, on est tous parents de grands, de petits, et donc on a eu des adolescents. Mais même, je dirais que c'est pas parce qu'on a des adolescents à la maison qu'on veut faire un journal pour adolescents. On s'est aperçu qu'il y avait vraiment, actuellement, avec tout ce qui s'est passé cette année en 2015, hein, lorsqu'on entendait les adolescents parler à la télévision, à la radio, on s'est bien aperçu qu'il y avait un décalage entre les adolescents et l'information, que ce soit avec les histoires des caricatures, que ce soit avec les théories du complot, toutes ces informations qui sont diluées sur le web. Et on s'est vraiment aperçu que les adolescents manquaient d'outils d'analyse pour comprendre l'information et l'utiliser à bon escient. Et on a trouvé qu'il n'y avait pas de presse écrite actuellement qui trouvait le moyen de créer ces outils fondamentaux pour que les adolescents comprennent le monde qui les entoure et deviennent même acteurs du monde à part entière après.
Qu'est-ce que ça va donner concrètement ? Est-ce que vous avez déjà des thématiques, des sujets en tête ou qui sont déjà même peut-être lancés ?
Topo donc fera 144 pages. Il y aura des enquêtes au long cours qui feront entre 20 et 30 pages et des chroniques et de la vulgarisation scientifique. Nous avons déjà choisi donc on sait déjà avec quels journalistes on va travailler. Ce sont des journalistes du Monde, de Mediapart, du Parisien Magazine. Voilà, il y aura à la fois des enquêtes au long cours et des chroniques sur l'art, sur le cinéma, sur la littérature, avec toujours des informations précises. Et des chroniques drôles, ironiques, parfois un peu transgressives. Et dans Topo, on ne parle pas des ados. C'est-à-dire, on peut en parler, mais on parle du monde. Donc, il y aura des sujets sur les problèmes palestino-israéliens, des sujets sur la Syrie, sur Daesh, sur la guerre en Ukraine. Ce sont vraiment des sujets d'actualité. L'idée, c'est vraiment que les ados comprennent le monde qui les entoure. Par exemple, on peut poser une question, pourquoi est-ce que c'est mauvais à la cantine ? Et à partir de là, on peut parler des restrictions budgétaires et de la dette en France. En fait, c'est ça l'idée.
Donc, si vous avez créé Topo, c'est donc parce qu'on ne s'adresse pas aux adultes comme on s'adresse aux adolescents. Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça implique de décrire, de dessiner pour un adolescent ? Comment on travaille en tant que journaliste ? Comment on adapte son contenu aux adolescents ?
C'est-à-dire qu'il y a deux réponses à ça. C'est on ne s'adresse pas aux adolescents comme à des adultes lorsqu'on parle d'une information parce qu'on est obligé de recontextualiser énormément les choses. L'adolescent ne sait pas ce que c'est qu'un chiffre d'affaires, ne sait pas ce que c'est que l'ONU. Lorsqu'on parle d'une information, on est obligé de la contextualiser. Sur le ton que nous allons utiliser le ton de la Revue Dessinée. C'est-à-dire que l'ado, on le vouvoie, on le respecte, on le considère comme un être, comme un adulte à part entière. On n'aura ni un ton moralisateur, ni paternaliste, ni sentencieux. On l'informe. Mais justement, je crois que les ados détestent être considérés comme des ados. Et nous, on pense qu'ils sont capables de comprendre absolument tout. Il suffit juste, encore une fois, de recontextualiser l'information.
Comment vous comptez attirer les ados? Parce que ce sont de grands consommateurs d'informations en ligne, d'informations télé dans une moindre mesure, mais assez peu consommateurs d'informations papier. Comment comptez-vous les attirer?
Alors, on va aussi avoir un site internet, une page Facebook, et on va bien sûr les interpeller sur ces pages, communiquer avec eux. On va avoir quelqu'un qui va pouvoir dialoguer avec eux sur les écrans et en même temps les rediriger sur la revue papier. On aura une certaine présence en ligne, oui, parce qu'on est tout à fait conscient qu'on ne peut plus maintenant, avec des ados, travailler que sur du papier. Mais il peut y avoir une véritable interaction entre l'écran et le papier, parce qu'un ado lit de la bande dessinée, lit des mangas, lit plein de choses, c'est-à-dire que le papier n'a pas disparu de son monde. Topo Papier fera partie de son univers.
RFI. C'était l'Atelier des médias, une émission proposée par Mathias Virilli, Mélissa Barra, Manon Mella, Simon Decreuse et Ziad Malouf. Au sommaire cette semaine également, Martin Guèze et Antoine Geoffin de l'IPJ. Merci à eux, merci aussi à toute l'équipe de la Session Magazine Radio, coproductrice de notre série Bienvenue en Adosphère et de cette émission. Vous pouvez retrouver tous les numéros de l'Atelier des médias sur SoundCloud ou sur vos applications de podcast comme iTunes, TuneIn, Overcast ou Downcast. N'hésitez pas à vous abonner à notre flux et à partager ou commenter nos émissions sur les réseaux dédiés. La semaine prochaine, nous interrogerons l'état d'urgence instauré en France depuis le 14 novembre et ses enjeux en termes de liberté de la presse et de liberté d'expression.